Bonsoir à la procureure de la CPI contre Jean-Pierre Bemba. La cour a décidé hier mardi la mise en liberté provisoire des quatre proches de Jean-Pierre Bemba. Il s'agit de Maître Aimé Kilolo, Fidèle Babala, Jean-Jacques Manguinda et Narcisse Arido. La cour estime que la libération était nécessaire pour éviter que la durée de la détention provisoire ne devienne disproportionnée. Entre-temps, la procureure vient d'interjeter appel ce mercredi. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 22 octobre 2014. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Patrick Tshibui, assistant chargé de la sensibilisation à la CPI-RDC. Monsieur Tshibui, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Jacques Njoli, sénateur et cadre du parti politique MLC. Il est professeur de droit constitutionnel. Professeur Njoli, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Maître Rufin Louko, chercheur en droits humains. Maître Louko, bonsoir.
Bonsoir, madame Kelly.
Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Capi.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La CPI a décidé hier mardi la mise en liberté provisoire d'Aimé Kilolo, Jean-Jacques Manguinda, Fidèle Babala et Narcisse Arido. C'est dans l'affaire procureur de la CPI contre Jean-Pierre Bemba. Le juge unique de la chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale a ordonné, après avoir réexaminé de sa propre initiative, la détention des suspects dans cette affaire. Le juge a estimé que la libération était nécessaire pour éviter que la durée de la détention provisoire devienne disproportionnée. Franklin Loutchaka nous en dit plus.
Dans son communiqué de ce mardi 21 octobre 2014, le juge unique de la chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale a réexaminé de sa propre initiative la détention des suspects dans l'affaire Le Procureur contre Bemba, Kilolo et Alliés et a ordonné la mise en liberté provisoire d'Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Manguinda Kabongo, Fidèle Babala Wandou et Narcisse Arido. Selon ce communiqué qu'on peut lire sur le site web de la CPI, la Chambre a conclu que, étant donné que le caractère raisonnable de la durée de la détention devait être évalué au regard, entre autres, des peines statutaires applicables aux atteintes en cause de la présente procédure, la libération était nécessaire pour éviter que la durée de la détention provisoire devienne disproportionnée. Cependant, ce mercredi, le procureur a décidé d'interjeter l'appel contre cette décision et a demandé un effet suspensif pour cet appel. Ce qui lui revient d'ailleurs dans ses prérogatives, estime Patrick Tshibui, assistant chargé de la sensibilisation à la CPI-RDC. De ce fait, les quatre prévenus risquent de rester en prison avec cette action du procureur. Aux dernières nouvelles, la Chambre pénale de la CPI vient de rejeter l'appel de la procureure et donc la liberté provisoire sera accordée aux quatre prévenus. Dans l'entretemps, en ce qui concerne les lieux d'accueil des prévenus, tous les prévenus n'avaient aucun problème sauf Fidèle Babala dont la RDC ne serait pas prête à l'accueillir alors que cet ancien député avait choisi comme pays d'asile son propre pays.
Merci Berry Franklin, Loutchaka, je voulais dire. Patrick Tshibui, vous êtes assistant chargé de la sensibilisation à la CPI-RDC. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette décision du juge de la chambre préliminaire 2 de pouvoir accorder la liberté provisoire à ces quatre proches de Jean-Pierre Bemba?
Merci beaucoup pour nous avoir invités à cette émission et je voudrais saluer les autres invités qui sont sur ce plateau, le professeur Njoli ainsi que maître Louko. Effectivement, le juge de la chambre préliminaire 2, le juge unique, avait décidé la liberté provisoire d'Aimé Kilolo, Fidèle Babala, Jean-Jacques Manguinda ainsi que Narcisse Arido et le juge avait estimé qu'au regard de son évaluation par rapport au caractère raisonnable de la durée de détention, cette évaluation devait prendre en compte notamment les peines statutaires qui seraient applicables pour les infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis, notamment les atteintes présumées à l'administration de la justice. Et par rapport à ces peines, le juge ayant estimé que le maximum de cette peine étant de 5 ans, pour ce qui est de la peine d'emprisonnement, parce qu'on peut être puni de 5 ans au maximum, ou de l'amende ou des deux à la fois. Donc au regard de cette peine, de ce maximum de la peine que pourraient subir les personnes pour ces infractions de 5 ans, et au regard du caractère raisonnable que devait avoir la durée de détention, le juge a estimé que la prolongation de la détention pourrait avoir un caractère disproportionné et donc a décidé la liberté provisoire.
Et la durée de la détention est de combien de temps?
La durée de la détention n'est pas déterminée dans les textes juridiques de la Cour pénale internationale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, et c'est important de le souligner, que le principe à la Cour pénale internationale, c'est la liberté. Et la détention, c'est l'exception selon certaines conditions qui sont remplies, qui nécessitent la détention de la personne. Mais il est également important, peut-être je vais en profiter ici, de souligner, comme l'a bien dit ce reportage, que le procureur exerçant ce droit d'interjeter appel avait aujourd'hui donc soumis sa requête en appel, le recours en appel contre cette décision, en demandant à la chambre d'appel l'effet suspensif de cet appel, c'est-à-dire en demandant à la chambre d'appel que ces personnes restent en détention jusqu'à ce qu'elles statuent sur le recours en appel.
Mais cela a été rejeté.
La chambre d'appel a rejeté l'effet suspensif. D'abord déjà la chambre préliminaire, parce que le procureur s'était adressé et à la chambre d'appel et à la chambre préliminaire en disant au juge qui avait rendu la décision de ne pas mettre en œuvre la décision qu'il avait rendue en entendant que la chambre d'appel statue sur l'effet suspensif. Aujourd'hui même, le juge, la chambre préliminaire, avait rejeté la requête du procureur en disant que selon lui, en principe, la demande d'effet suspensif doit se faire devant la chambre d'appel et par la suite, la chambre d'appel vient également de rejeter la demande d'effet suspensif du procureur.
Et cela veut dire quoi?
Que ces personnes, la mise en œuvre est donc faite par le greffier, les dispositions sont prises par le greffier pour mettre en œuvre la décision de mise en liberté provisoire de ces personnes.
Qui
vont jouir de la liberté provisoire et que ces personnes le jouiront dans des états que eux-mêmes avaient désignés. Et j'aimerais ici préciser que ces états sont la République démocratique du Congo, la Belgique, le Royaume-Uni et la France. Ce sont là les quatre états que les quatre suspects avaient désignés pour pouvoir jouir de leur liberté provisoire.
Et
si
aucun problème ne se pose pour aller dans ces quatre pays.
Pour ce qui est de la décision rendue par les juges, notamment par rapport à M. Fidel Babala, la décision rendue par le juge leur accorde cette liberté provisoire, notamment qu'il va exercer sous le territoire de la RDC, et ainsi les autres le vont exercer soit en Belgique, soit au Royaume-Uni, soit en France.
Alors, est-ce que cela veut dire aussi que les charges retenues contre ces personnes ne sont pas fondées lorsqu'on leur accorde la liberté provisoire?
Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, comme je l'ai dit au départ, le principe, c'est la liberté et la détention, c'est l'exception. C'est la même procédure qu'on a devant les juridictions congolaises. Vous avez la possibilité, lorsque vous êtes poursuivi, même au pénal devant un juge congolais, la possibilité de bénéficier de la liberté provisoire. Cela ne veut pas dire que vous êtes innocenté ou que vous êtes acquitté. Cela veut simplement dire que le processus pénal poursuit son cours, mais au même moment que le processus pénal poursuit son cours, vous n'êtes plus en détention. C'est la même chose pour ces personnes. Jusqu'à présent, nous aurons la décision de confirmation ou non des charges pour que nous puissions avoir procès par rapport à ces accusations, parce que nous n'avons pas encore de procès, et donc nous attendrons cette décision, mais le fait qu'ils soient libérés ne veut pas dire qu'ils sont acquittés, ne veut pas dire que cela met fin à la procédure.
Alors, Patrick Tchiboui, cette émission est aussi pédagogique pour permettre à nos auditeurs de pouvoir comprendre. Est-ce que ces quatre accusés ou suspects vont quitter la CPI aujourd'hui, ou bien il faut attendre des démarches administratives?
Le juge dans leur décision a demandé au greffier, parce qu'au fait dans le travail de la cour, les organes ont des responsabilités bien reparties, et c'est le greffier qui met en œuvre les décisions qui sont rendues par les juges. Et donc le juge, en ordonnant la mise en liberté provisoire, avait demandé et a demandé au greffier de la Cour pénale internationale, au travers de ses services, de prendre toutes les dispositions utiles pour mettre en œuvre ces décisions de liberté provisoire.
Et c'est la première première fois qu'on assiste à une telle décision depuis la mise en place de la Cour pénale internationale, que des suspects, qu'on accorde une liberté provisoire à des suspects qui étaient détenus à la Cour pénale internationale.
Oui, mais cela ne veut pas dire, comme je l'ai reporté, le fait qu'une personne soit détenue, cela est fait sur base des 13 instruments juridiques de la Cour, selon les nécessités qui exigent que cette personne soit détenue, nécessités qui sont prescrites dans les instruments juridiques de la Cour pénale internationale. Mais la liberté provisoire, comme je l'ai dit, c'est le principe à la Cour pénale internationale. La liberté, c'est le principe, et la détention, c'est l'exception, et c'est comme cela que cela est présenté, même dans les instruments juridiques de la CPI.
Merci Patrick Tchiboui, professeur Jacques Ndjoli. Je rappelle que vous êtes sénateur et cadre du parti politique MLC. Vous êtes également professeur de droit constitutionnel. Comment vous avez accueilli cette décision du juge de la chambre préliminaire 2 de la CPI?
Merci beaucoup madame, je salue aussi les autres invités à ces débats. Je voudrais vous dire que c'est avec une grande émotion, un grand plaisir que nous avons d'abord suivi la décision du juge unique. Et lorsque ce matin le procureur est allé en appel, un appel qui apparaissait déjà pour ces juges qui a pris la décision proprio motu, qui nous apparaissait déjà comme tout simplement superfétatoire. Donc l'appel du procureur a été rejeté.
Vous étiez sûr que ça allait être rejeté?
Madame, dès lors que le juge a pris l'option proprio motu d'enclencher cette procédure, elle était déjà dans une conviction que plus rien ne pouvait, n'est-ce pas, permettre la présence de monsieur l'honorable Babala à la CPI et que sa liberté était la règle. Nous sommes heureux que l'assistant chargé de la sensibilisation affirme aujourd'hui qu'au niveau de la CPI, la liberté est la règle. Nous avions l'impression qu'il y avait, n'est-ce pas, un renversement du principe. C'était la détention qui était la règle et la liberté l'exception. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a cette évolution. Donc, comme il a voulu le dire, l'honorable Fidel Babala a quitte déjà ce soir ou plus tard demain matin la prison de Chemzuguen, et dans les prochaines heures, il sera à Kinshasa parce que il est congolais et conformément à l'article 30 de la Constitution, personne, madame, ne peut être forcé à l'exil ou habiter hors de sa résidence familiale, et que deuxièmement, la République démocratique du Congo étant un État parti, n'est-ce pas, au traité de Rome, a l'obligation de coopérer. Et sur cette question, la décision de la juge unique est très claire, c'est en République démocratique du Congo que le greffe est appelé à reconduire Fidel, et comme il a été dit, donc il est à liberté provisoire, il va comparaître un homme libre comme d'autres suspects de la Cour, ceux qui sont au Kenya ou ceux qui sont au Soudan, comparaissent librement. Nous avons toujours déploré cet état de choses. Donc aujourd'hui, c'est un cheminement qui a pris un pas sérieux. Donc l'honorable Fidel Babala rentre et il va comparaître, il va essayer de démontrer son innocence. Et après lui, nous attendons très rapidement la libération de Jean-Pierre Bemba, parce que la détention est excessive. Et heureusement, il y a un juge qui vient de marquer d'une pierre blanche la jurisprudence de la Cour.
Alors, mais on aurait appris, professeur Jean-Jolie, que la RDC ne serait pas prête à accueillir Fidel Babala au cas où réellement la RDC refusait qu'il revienne au pays. Mais qu'est-ce qui va se passer?
Madame, nous ne sommes pas dans les états d'âme. Nous sommes dans le droit. Et le droit congolais commence d'abord par la Constitution. Et cette constitution, l'article 30, dit qu'aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République ni être contraint à l'exil. C'est vrai que depuis que cette affaire a commencé, l'attitude des autorités de la République a été à plusieurs moments ambiguë. C'est depuis décembre que l'honorable Fidel Babala avait sollicité, n'est-ce pas, sa liberté provisoire. Au mois de janvier, Madame la ministre a donné un accord, son accord. Au mois de février, le procureur a donné un autre point de vue. cette ambiguïté, cette incohérence a été à pousser la Cour au mois d'avril à demander à la République démocratique du Congo de donner un seul point de vue. Au mois de mai, Madame la ministre a rejoint, n'est-ce pas, la position de procureur, mais elle dit bien que la République démocratique du Congo n'est pas partie dans cette affaire. Donc, nous sommes convaincus et des efforts que nous avons faits auprès des uns et des autres pour leur expliquer qu'il faut éviter de créer des problèmes, il n'y en a pas. Donc, le droit est clair, la Constitution est claire, et la RDC, en tant qu'État parti, doit respecter, n'est-ce pas, les décisions de la Cour. Autant, la RDC a coopéré, parfois de manière plus que diligente, à l'arrestation de Fidel Babala, autant elle va coopérer au retour de Fidel Babala chez lui.
Est-ce que par cette décision, professeur Jean Jolie, on peut dire que l'image, ça change un peu l'image de la CPI, parce que beaucoup de gens pensent que cette Cour est politisée?
Pas beaucoup de gens. Tout le monde pense, y compris tous les Africains. Au niveau de l'Union africaine, il a été dit que cette Cour fonctionnait comme une Cour pénale africaine chargée. Les 7 affaires en cours sont toutes des affaires africaines et sont des affaires politiques. Les 3 affaires qui ont été soumises par les États sont des règlements politiques. L'affaire RCA, l'affaire DC ou encore l'affaire de l'Ouganda. L'Ouganda s'est retiré. Dans les 2 autres affaires sur demande du Conseil de sécurité, c'est l'affaire libyenne sur l'affaire Kadhafi et le président soudanais ou encore les 2 autres affaires. Donc, l'affaire kenyane et l'autre. Donc, dans tous les cas, nous avons toujours demandé à la Cour de s'amender. Et je crois que là, c'est un processus. Et pour nous, il est important que la Cour régente son esprit. L'esprit Moreno, qui a fait de cette Cour une Cour type militaire, comme il a connu en Argentine, eh bien, nous croyons que les choses vont changer.
Merci,
et que le
professeur.
Droit commence à être respecté.
Merci, professeur Jacques Njoli. Maître Ruffin Louko, vous êtes chercheur en droit humain. Quelle lecture vous faites de cette situation?
Merci madame pour l'invitation et merci pour la question. D'abord, je vais préciser à l'intention de nos auditeurs ou de vos auditeurs, le siège de cette intervention de cette juge unique, et c'est pas unique, donc elle a décidé seule. Alors, c'est l'article 60 du statut de la Cour pénale internationale. Voici ce qu'est cet article. Chez nous, on parle des alinéas. À la CPI, on parle des paragraphes. Le paragraphe 2 dit ceci. La personne visée par un mandat d'arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant d'être jugée. Si la chambre préliminaire est convaincue que les conditions énoncées à l'article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne est maintenue en détention. Sinon, la chambre préliminaire la met en liberté avec ou sans condition. Ça, c'est le paragraphe 2, n'est-ce pas, de l'article 60. Alors, le paragraphe 4 et 4 sur lesquels Madame la juge s'est appuyée, voici ce qu'elle pose. La chambre préliminaire s'assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d'un retard injustifié imputable au procureur. Si un tel retard se produit, la Cour examiner la possibilité de mettre l'intéressé en liberté avec ou sans condition.
Alors, c'est un peu ce que Patrick Tshibui a dit tout à l'heure.
Donc, visiblement, Maître Kilolo et tous les consorts avaient déjà été maintenus en liberté d'une manière plus ou moins excessive par rapport à la gravité de la peine, de la peine encourue par rapport à l'infraction dont ils étaient poursuivis, et que le drame dans ces procès ici de Jean-Pierre Bembe et consorts avec tous ces avocats qui sont finalement emportés par la vague de cette répression, c'est la manière dont Moreno, dont l'héritage de l'enquête Moreno. Ça fait que c'est parmi les rares enquêtes qui se sont précipitées à arrêter la personne pendant que tous les éléments de preuve n'étaient pas réunis. Et la conséquence, c'est que maintenant nous sommes dans une détention vertigineuse, troublante, de Jean-Pierre Bembe, on ne sait pas où ça s'arrêtera. Et ça.
Et là, vous remettez un peu en cause la procédure de la CPI pour arrêter.
Mais comme Patrick a dit, la liberté, le principe, c'est la lettre. Mais le constat, c'est qu'à la CPI, tous ceux qui ont été arrêtés, je vous rappelle, madame Kéline, comme vous avez posé la question, ce sont les premières mises en liberté provisoires de la CPI et qui seront exécutées.
Le premier.
Jean Prévert a été mis en liberté plusieurs fois. Je me rappelle, c'était une ou deux fois. Mais ça n'a jamais lié l'exécution. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pays qui ont refusé, n'est-ce pas, de l'accueillir. Bon, cette fois-ci, la Cour est allée outre l'hésitation ou le refus des États à accueillir les concernés. Parce que, par exemple, en ce qui concerne Kilolo, il a une carte de résidence en Belgique. La Cour a estimé que on n'a pas besoin de point de vue ou de l'avis de la Belgique parce que ce monsieur a été arrêté, il avait une carte de résidence et la Belgique n'avait jamais donné d'observation. En ce qui concerne par exemple Babala, on est passé outre le point de vue de notre pays parce que tout simplement on considère que Babala est député ici. Et jusqu'à son arrestation, il n'y avait aucune action judiciaire ouverte contre lui dans son pays. Donc, juridiquement et plus ou moins politiquement, il n'y avait pas donc d'empêchement pour laisser ces citoyens-là du monde, qui ont chacun son pays, et pour la plupart tous sont des combattants de notre pays, de revenir là où ils étaient avant l'arrestation. Alors le drame ici, c'est que ces procès, depuis que ça a commencé, tous ces procès, c'est que si vous allez en Ouganda, si vous allez au Kenya, vous allez, n'est-ce pas, en Sierra Leone, vous verrez que dans tous les ministères de justice de ces pays-là, on a déjà ouvert un département dans le ministère de la justice, d'abord une direction qui est chargée de la CPI, donc de la justice internationale. Au Rwanda également. Sauf chez nous, nous sommes en retard alors que nous sommes le pays qui a mis, par notre ratification, permis à ce que la CPI, donc le statut, puisse entrer en vigueur. Et nous sommes le premier pays pourvoyeur de prévenir, pourvoyeur d'acquiser de la CPI. Et chez nous, nous n'avons donc pas un observatoire national qui est chargé de surveiller comment la CPI applique la justice ou le statut en ce qui concerne
nos compatriotes. Mais qu'est-ce qui explique cela, Maître Loukou?
Je ne sais pas. Donc il y a beaucoup de réseaux politiques.
Entre autres,
c'est bon, au départ, comme vous l'avez dit, que non, ces procès se sont avérés ensuite, pour la plupart presque politiques. Le comportement de Moreno et de son successeur, Madame Bensouda. Vous sentez que les judiciaires, même les cas de la Côte d'Ivoire, dans ce qui concerne Babo et Blegoudé, vous sentez que les judiciaires semblent ne pas prendre les décis en ce qui concerne la procédure, le respect, les principes par rapport aux politiques. Donc, pour me résumer, madame, on doit déplorer le fait que le pays, le nôtre, n'a pas un observatoire, une direction du ministère de la Justice ou de la présidence de la République ou de la primature qui est chargée de suivre la façon dont la CPI, n'est-ce pas, et l'évaluation, la façon dont la CPI applique les statuts en ce qui concerne nos compatriotes. Et surtout, il y avait des accords lorsque nous avons ratifié en 2002. Il y a eu des accords pour que la CPI, non seulement nous ratifions, la CPI va renforcer par une coopération, n'est-ce pas, notre justice. Nous avons fait notre part.
Merci.
Et jusqu'à aujourd'hui, la CPI, elle, n'a pas fait sa part.
Merci, Maître Ruffin Loukou. Patrick Tchiboui, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient du Maniema.
Jean-Paul à Lubumbashi, Katanga. Il était temps de libérer le quatre citoyens, plus particulièrement le fidèle de Honorable Mbimba. Néanmoins, la Cour de la CPI, à la longue, devra bien procéder leur interpellation, cas de fidèle Babala, Honorable.
Alors, cet auditeur nous appelle du Katanga, comme on me dit par la réalisation. Il déplore un peu la procédure de la CPI.
Bon, peut-être qu'avant de répondre à cette question, il est peut-être important de pouvoir rapidement clarifier quelques éléments. D'abord, il faut préciser ici que tout ce qui fait la Cour pénale internationale se fait en respectant les instruments juridiques de la Cour pénale internationale. La Cour et les juges ne peuvent pas poser, et même le procureur ne peut pas se permettre de poser un acte qui serait en dehors des instruments juridiques de la Cour pénale internationale, et dans tous les cas, les juges sont là pour pouvoir préserver notamment les droits de la défense. Par rapport à la mise en œuvre à la décision de mise en liberté provisoire, vous allez vous rappeler que le 26 septembre, ce même juge avait demandé des observations à ces États, à ces mêmes États, parce qu'il faut le préciser, ces États ont été identifiés par chacun de ces suspects comme étant le pays dans lequel ils souhaitaient jouir de la liberté provisoire. Et le 26 septembre, le juge unique qui a rendu ces décisions, avait demandé des observations à ces États concernés, notamment la République démocratique du Congo, la Belgique, le Royaume-Uni, la France,
pour que ces États
fassent des observations. Et ces États avaient jusqu'au 10 octobre pour présenter leurs observations. Tous les États ont déposé leurs observations. Et le juge a rendu sa décision, évidemment, en se basant sur le statut de Rome, en voyant aussi les besoins nécessitant encore la détention, mais il regarde également en analysant les observations qui ont été envoyées par les États. Et donc le juge a rendu sa décision, et d'ailleurs cette liberté provisoire jusqu'à présent a été rendue sans condition. La seule condition pour le moment qui est imposée à ces personnes, c'est de pouvoir s'engager par écrit à se présenter à la Cour chaque fois que cela leur sera demandé. Mais les États concernés ont présenté leurs observations. Et donc, il n'y a rien qui serait politique, parce que tout ce que fait la Cour pénale internationale, c'est effectivement le respect de la procédure, et les juges sont là pour garantir le respect de la procédure. Donc si aujourd'hui nous avons une décision de mise en liberté provisoire qui a été rendue, et c'est là l'intérêt qu'il y a de ce qu'on appelle en droit la motivation des décisions. Parce que lorsque le juge rend sa décision de mise en liberté provisoire, cette décision est d'ailleurs sur le site de la Cour pénale internationale, donc tous les auditeurs peuvent avoir accès à cette décision et peuvent en détail lire quels sont les arguments juridiques qui ont poussé le juge à rendre sa décision de mise en liberté provisoire, de la même manière que les auditeurs peuvent voir pourquoi le procureur a interjeté appel et pourront voir pourquoi la chambre d'appel a rejeté cet appel. Tout est argumenté et la seule argumentaire que prennent les juges, c'est vrai les arguments de fait, mais c'est surtout les arguments de droit qui gèrent, qui gouvernent les éléments, les arguments de fait.
Donc la procédure est faite. La CPI procède à des arrestations sans avoir recueilli tous les éléments possibles.
Non. Très souvent. Non. L'arrestation est gouverné par le statut de Rome. Il y a des conditions qui sont prescrites qui permettent au juge de délivrer un mandat d'arrêt. Il faut rappeler que devant la Cour pénale internationale, vous avez deux modes de comparution. Soit on délivre un mandat d'arrêt par les juges. Pour cela, il faut que les conditions pour la délivrance du mandat d'arrêt soient remplies. Soit on délivre une citation à comparaître. Mais si vous êtes, vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt, cela n'empêche pas que vous puissiez jouir de la liberté provisoire. Je vous donne juste un exemple pour vous montrer combien est-ce que véritablement le principe de la liberté devant la Cour est la règle et elle n'a pas été créée maintenant, parce que le statut de Rome dit, une fois que vous êtes arrêté, que vous êtes amené devant la Cour pénale internationale, le premier jour, lorsqu'il y a l'audience de première comparution, au lendemain de votre arrivée devant les juges, vous avez la possibilité de demander la liberté provisoire. Et le statut va même encore plus loin, en disant que lorsque vous êtes arrêté dans un État, vous avez la possibilité de demander votre liberté provisoire à ce juge national. C'est la raison pour laquelle, rappelez-vous, que lorsque M. Jean-Pierre Bemba avait arrêté en Belgique, entre le moment où il avait été arrêté en Belgique et le moment où il avait été remis à la Cour pénale internationale, on a passé un temps. Pourquoi ? Parce que M. Jean-Pierre Bemba jouissait du droit reconnu par le statut de Rome, non pas par la législation belge, reconnu par le statut de Rome, le droit qui lui était reconnu de demander sa liberté au juge belge. Et c'est la même chose que nous avons eu par exemple avec Alice Barouchimana. Lorsqu'il a été arrêté, avant qu'il ne soit remis à la Cour pénale internationale, on a dû attendre que tous les voies de recours en France soient épuisées pour que le juge français refuse de l'accorder la liberté provisoire et qu'il soit remis à la Cour pénale internationale. Merci. Donc c'est un principe qui existe au sein de la Cour pénale internationale.
Merci Patrick Tchibouy, professeur Jacques Ndjoli. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Bahamé de Bukavu, au sud Kivu. Je pense qu'il ne suffit pas de mettre en liberté provisoire Fidel Babala et ses trois compagnons. Encore faut-il, et ce qui est d'ailleurs intéressant, que la CPI s'occupe sérieusement de l'affaire Bemba pour que l'opinion soit réellement fixée sur son sort au lieu de tirer ses procès à longueur.
La liberté provisoire pour Fidel Babala et ses trois compagnons ne suffit pas, mais il faut se focaliser beaucoup plus sur l'affaire Bemba pour que l'opinion soit éclairée et fixée sur son sort.
Madame, vous voyez que ces citoyens n'ont pas besoin d'aller faire de grandes études de droit pour comprendre le manœuvre dilatoire, voire de l'osif de la Cour. Jean-Pierre Bemba est en détention depuis 2008. Donc, il devait être jugé sans retard. Malheureusement, ça prend du temps. Mais ce n'est pas seulement Jean-Pierre Bemba. Rappelez-vous l'affaire Goudjolo. Il a été mis en liberté depuis 2012. Et jusqu'à présent, il est toujours détenu parce qu'il y a des appels d'Irima et autres. Ce qui a fait poser beaucoup de questions sur le méthode de travail de la Cour. Nous sommes heureux qu'il y ait rééquilibrage aujourd'hui entre la fonction juridictionnelle du juge et la fonction plus ou moins politique de ses procureurs. Nous nous sommes toujours demandé quels sont les fondements sur lesquels M. Moreno a été pris. Ou encore même Mme Saoud, avec qui j'ai beaucoup de respect, la Gambie, quelle justice. Donc, cette justice bananière qui a été transportée, je suis heureux que l'assistant parle de la Belgique. Mais est-ce qu'il peut vous dire dans quelles conditions M. Babal a été arrêté? En violation flagrante du droit international et du droit national. On va aller enlever quelqu'un à 2h du matin pour le conduire dans un cachot de la nerf qui est transporté dans les aéroports militaires, c'était inadmissible. Donc, nous demandons, nous sollicitons que la Cour, qui a un accord, comme a dit Maître Loukou avec la RDC, puisse mettre à plat le mécanisme de coopération pour que la Cour ne soit pas instrumentalisée et servir.
Mais cette coopération existe, professeur.
C'est une coopération qui est dangereuse à ces jours-ci parce qu'elle n'est pas encadrée. Elle n'est pas encadrée et lorsque Fidel Babal est arrivé en Belgique, ses avocats ont d'abord souligné l'illégalité de son arrestation par rapport même au droit national. On ne va pas aller dans le fond. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que si nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'une justice pénale internationale qui doit, n'est-ce pas, nous aider à réprimer les crimes le plus choquant de l'humanité, il ne faut pas que la Cour soit instrumentalisée pour des raisons politiques internes ou des subordinations de témoins sur base de manœuvres de l'OSIF. Donc voilà pourquoi nous voulons dire à ces compatriotes que l'affaire Balabala n'était qu'une affaire parallèle, subordonnée. L'affaire principale, c'est l'affaire Bemba. Et en fait, la démarche du procureur, c'était de vouloir chercher à utiliser l'affaire Balabala pour encore retarder l'affaire Bemba. Et là, heureusement, le juge a déjà compris la manœuvre et a pu mettre fin à cela. Et que nous espérons que, puisque Fidel est sorti, très rapidement, l'affaire Bemba, qui doit trouver sa solution avant le début de l'année 2015.
Alors, je voudrais revenir sur cette coopération entre la RDC et la CPI. Vous dites qu'elle n'est pas encadrée. Concrètement, ça veut dire quoi? Encadrée par qui?
Madame, les questions sont essentielles. Il y a eu des accords intérimaires qui ont été signés par le bureau du procureur avec le procureur en matière de coopération, un autre accord sur les privilèges et les immunités de membres de la Cour, les activités de la Cour ici. Mais tous ces éléments, même la mise en œuvre de l'accord, doit faire l'objet d'une discussion au Parlement. Parce qu'il s'agit du droit international pénal. Il s'agit de l'intégration de normes internationales, non pas simplement comme l'article 215, mais qui sont liées à la liberté. Donc il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une intégration spécifique en matière de droit, n'est-ce pas, en droit interne. Et jusqu'à présent, en voyant les choses, on sent qu'il y a une démarche qui est plus ou moins opaque, qu'il faudra clarifier par des règles claires.
Merci, professeur. Maître Rufin Loukou, il y a une réaction pour vous qui nous vient de Maniema.
Moi, c'est Kumbele Ngoma Léopold Singbare. Je vous appelle à Tinkungwa au Maniema. Je dis ceci, tout ce monde-là n'est pas poursuivi par la CPI. Il n'y a que les anicroches qu'on est en train de faire pour clouer Jean-Pierre Bemba davantage. Car toutes les procédures faites sont plus politiques que juridiques en fait de stabiliser le régime en place. Et sa libération est un acquis et aura lieu.
Maître Loukou.
Oui, mais bon, c'est parce que... Bon, je parle scientifiquement.
Oui, allez-y.
C'est parce que c'est liberté qui est le principe, n'est pas respectée par la Cour pénale internationale, qui fait que toutes les populations africaines
pensent que la Cour est politisée.
Parce que Les principes que Chibouy Patrick énonce, c'est un principe fondamental et universel. Aujourd'hui, la liberté est le principe. C'est la lettre. Mais la pratique, je vous donne les faits. Le droit d'être jugé sans retard excessif prend tout son sens lorsqu'un accusé est acquitté, comme l'a été Ngundjolo le 18 décembre 2012. Celui-ci avait été transféré au siège de la CPI en février 2008. Acquitté en 2012. Il aura donc passé près de 5 ans en détention à La Haye avant qu'un jugement d'acquittement soit prononcé à sa faveur. Près de 5 ans. Où est l'importance, où est le respect de la liberté déjà? Ensuite, ainsi au minimum, le temps écoulé entre la comparution initiale d'un suspect et la décision relative à la confiscation des charges contre lui a été de 7 mois, presque la moyenne en ce qui concerne Ngundjolo, elle a été de 8 mois en ce qui concerne Banda et Gerbo, 10 mois en ce qui concerne Thomas Lubanga et Abougarda. Tout ça, donc c'est environ 10 Kenya. Vous voyez que la moyenne c'est 8 à 12 mois de détention avant de comparaître devant les juges. Tout ça, c'est pour démontrer, si je vais au cas de Mbarushimana et tous les autres, vous verrez que non, c'est rare. Lorsque je cite Katanga également, c'est combien? Katanga a été transféré le 14 mars, n'est-ce pas, condamnation, soit plus de 3 ans plus tard, alors que les suspects avaient été transférés à la CPI en mars 2006. Donc, je vous épargne les autres détails par rapport au non-respect de la Cour pénale internationale de ses principes fondamentaux, la liberté et les principes, et la détention, l'exception. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que nous n'avons pas un observatoire. C'est comme si la RDC, c'est le seul pays qui coopère avec la CPI, sans des conditions, sans des préalables. Nous vendons tout gratuitement. Nos compatriotes y vont, ils sont arrêtés, et nous n'avons aucune revendication. Nous aurions dû demander à la CPI de temps en temps, par rapport à un certain nombre. Ce statut de la CPI nous appartient à nous également. Donc nous avons des revendications à faire à la CPI par rapport à nos compatriotes qui sont là-bas. Maintenant, que Babala, qui est député, Babala est élu ici. Ça veut dire qu'il y a une circonscription électorale qui a envoyé à Kinshasa quelqu'un pour le défendre. Et jusque-là, voilà, c'est resté vide comme ça, et il est là. Il est là comment? Il n'est pas condamné, il est toujours en procédure d'enquête préliminaire, maintenant il est devant la cour. On aurait dû même faire tout ça avant qu'il ne soit arrêté. Donc je suis en train juste de stigmatiser le fait que parce que nous ne revendiquons rien en tant que nation, et la CPI nous fait ce qu'elle estime convenable. Alors que nous aurions dû avoir des revendications en tant que pays, que nous voici tel et tel, le pays a encore besoin de lui, nous n'avons pas besoin que ça continue comme ça, ou bien vous nous le remettez, nous rendons la justice contre lui, nous-mêmes comme pays. Donc, je considère que cette question-là, nous devons réajuster le tir en ce qui concerne la procédure et le respect des principes posés par les statuts de Rome, parce que nous sommes le pays qui a le plus à demander en termes de comptes à la CPI, parce que nous sommes le pays qui a donné le plus grand nombre de prévenus, comme j'ai dit, d'accusés, et le pays qui a permis, n'est-ce pas, que les statuts de la CPI puisse entrer en vigueur, parce que nous étions le pays qui a ratifié, et à cause de notre ratification, la CPI est entrée en vigueur.
Merci Maître Louko. Patrick Tshibouyi, on ne peut pas parler de Fidèle Babala sans évoquer la question Jean-Pierre Bemba. Le professeur Jacques Ndjoli l'a soulevé tout à l'heure. Pourquoi le procès Bemba traîne? Il est à la CPI depuis 2008.
Alors, à la question générale du temps que doit prendre un procès, il est important de préciser, et le professeur Ndjoli pourra me contredire, mais Maître Ruffin, il n'existe pas en droit international une détermination du temps que doit prendre un procès pénal. De la même manière que je ne pense pas qu'en droit national, en droit congolais, vous avez une détermination de temps que doit prendre un procès pénal, soit pour crime, pour meurtre, soit pour escroquerie. En droit international, il n'y a pas de norme objective. Et je dis que même c'est même le cas en droit national. Mais le principe qu'a cité Maître Louko est un principe reconnu à la défense qui est consacré dans le statut de Rome, le droit d'être jugé sans retard excessif. Mais nulle part, il est dit en droit international qu'un procès pour crime de génocide doit prendre une année, 2 ans, 3 ans, qu'un procès pour crime de guerre doit prendre tel, ça n'existe pas. Chaque
ça
procès,
prend le temps que ça prend.
Ça ne prend pas le temps que ça prend. C'est la raison pour laquelle vous avez ce principe fondamental du droit d'être jugé sans retard excessif qui est reconnu à la personne poursuivie et qui est consacré dans le statut de Rome. Et les juges doivent veiller à ce que la personne soit jugée sans retard excessif. Et donc, chaque procès a sa particularité. De la même manière que, par exemple, en droit congolais, un procès pour escroquerie peut prendre 2 mois, un même autre procès pour escroquerie peut prendre une année. années. Donc chaque procès a sa particularité. Donc il est difficile de dire aujourd'hui qu'un procès pour crime de guerre doit prendre une année, un procès pour génocide doit prendre deux ans, parce que ça n'existe pas. Et ça, c'est fondamental insister là-dessus. Et la politisation de la Cour pénale internationale, il est important de préciser que le mécanisme mis en place par la Cour pénale internationale, par ses instruments juridiques, est tel qu'il n'est pas possible qu'il y ait politisation. Des exemples sont simples. Déjà, par exemple, le mandat d'arrêt. Ce n'est pas le procureur de la CP qui délivre le mandat d'arrêt. Ce sont les juges. Et les juges peuvent refuser de délivrer un mandat d'arrêt. Donc le procureur mène les enquêtes, il identifie qui peut être poursuivi, mais il vient demander le mandat d'arrêt des juges. Et les juges, en regardant le statut de Rome, en regardant les faits, peuvent délivrer le mandat d'arrêt ou peuvent le rejeter. Et par rapport au procès de M. Jean-Pierre Bemba, ce qu'il faut savoir, que maintenant, les juges ont dit clairement, la procédure des éléments de preuve avait déjà pris fin. Nous aurons les déclarations orales en principe en novembre, à moins que les juges décident autrement. Mais avant les déclarations orales de clôture de ce procès, nous avons un témoin, le P169, qui sera appelé encore à déposer devant les juges dans l'affaire Jean-Pierre Bemba.
Alors en conclusion, Patrick Tchibouille, l'affaire Babala, c'était pour retarder encore le procès
Bemba,
comme l'a dit le professeur Joly.
L'affaire Babala, c'est deux affaires tout à fait distinctes. Ils étaient poursuivis pour les atteintes présumées à l'administration de la justice dans l'affaire principale, et il est important, comme j'ai dit, de préciser que cette affaire n'a pas pris fin. On n'a pas encore de procès par rapport à cela. Merci. Et le processus est en cours. Nous attendrons la décision que rendra le juge.
Merci Patrick Tchibouille. Professeur Jacques Joly, il n'y a pas de temps. On précise pour un procès pénal.
Non, madame, je ne suis pas d'accord avec maître Tchibouille. Il sait que l'article 67, n'est-ce pas, du statut est très clair. Il faut être jugé sans retard excessif. C'est suffisamment clair. Donc, la durée de procédure devant la Cour peut violer le droit à un procès juste et équitable. Et il y a eu des condamnations au niveau de la Cour européenne de droits de l'homme parce que la longueur du procès peut être un acte constitutif de torture. C'est un acte de torture auquel Jean-Pierre Bemba est soumis. Vous imaginez, 8 ans pratiquement, vous laissez votre famille et vous n'avez pas, n'est-ce pas, droit à un procès équitable. Si vous prenez le cas de Goudjolo, il a été acquitté depuis 2012 jusqu'en 2015, on est encore en train de chicaner. Non, je crois qu'il faut, un des principes majeurs de la justice, c'est aussi la célérité. Pourquoi en droit congolais nous avons dû instituer la procédure de flagrance?
Merci.
Donc on ne va pas commencer à arrêter les gens et commencer à tripatouiller pour chercher des preuves à preuves.
Merci professeur Jacques Joly, maître Ruffin Louko.
Non, c'est choquant lorsqu'on doit dire que non, il n'y a pas d'État. C'est parce qu'il n'y a pas de contrôleur. Il n'y a pas d'organe qui revendique notre pays, le cas de Jean-Pierre Bemba et tous les autres. Pradika, parce que nous ne revendiquons rien. Nous devrions dire par exemple que non, si ce cas n'est pas tranché, si ces personnes ne sont pas fixes, 7 ans de détention, c'est la folie. Où est la valeur de la liberté lorsque la personne est arrêtée pendant autant de temps et qu'on les condamne ensuite à 5 ans alors qu'il a fait déjà 10 ans de détention? Ça, c'est troublant. Donc je considère donc que nous devons remettre à niveau nos revendications et que donc la CPI doit apprendre également à nous respecter comme étant le pays qui a donné le mien jusqu'à aujourd'hui. Ni le Kenya ni le Rwanda n'a pas fait autant pour la CPI, en fait, que cette Cour ait cette audience internationale qu'elle a aujourd'hui. Nous sommes donc la victime expiatoire, comme on peut dire, les dindos de la farce.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Alain Rung et Berry Luchaka, qui m'ont aidé à préparer cette émission. La mise en onde était assurée par Jean-Noël Mokondo, micro Kéline Côté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.